VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Mali, 5 suspects arrêtés, 4 assaillants tués, plus 2 civils qui ont perdu la vie. Tel est le tout dernier bilan de l'attaque djihadiste de dimanche contre le campement Kangaba dans la périphérie de Bamako, selon le général Salif Traoré, ministre malien de la Sécurité. Le campement Kangaba est un vaste site de détente situé près de la capitale. Un rappel des événements avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Un dimanche calme au campement Kangaba, situé au nord de Bamako sur la route de Ségou, a été perturbé par une attaque terroriste. D'après les témoins oculaires, ils sont arrivés sur une moto et dans un véhicule non immatriculé. Après, les djihadistes ont lancé l'attaque à partir du flanc de la colline qui surplombe le campement. Arrivés sur place, ils ont abandonné leurs engins tout en scandant Allah Akbar. C'est après qu'ils ont commencé à faire des tirs. 15 officiers français étaient dans la piscine avec leurs armes à portée de main. Un d'entre eux a réussi à battre un terroriste, mais ils ont été obligés de décrocher car ils n'avaient que des pistolets alors que les terroristes utilisaient des kalachs. C'est ainsi que la force spéciale antiterrorisme du Mali a été dépêchée sur les lieux. Parmi les 36 rescapés, il y a des Français, d'autres nationalités européennes, des Maliens, des Égyptiens et des Kenyans plus un Camerounais. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Selon le tout dernier bilan du ministère malien de la Sécurité, 14 Maliens, 13 Français, 2 Espagnols, 2 Néerlandais et 2 Égyptiens figurent parmi les rescapés. Au Nigeria, des attentats suicides coordonnés ont fait 16 morts et de nombreux blessés dimanche au camp de déplacés de Dalori, à 10 km de Maïdougouri, chef-lieu de l'état de Borno, dans le nord-est. C'est ce qu'a déclaré ce lundi l'Agence nationale de gestion des urgences. Selon son porte-parole, Abdoulkadir Ibrahim, 2 femmes ont déclenché leur ceinture explosive vers 20h45-19h45, temps universel hier soir, dans le village de Kofa, qui abrite un grand camp vivent des dizaines de milliers de personnes déplacées par le conflit avec le groupe islamiste Boko Haram. En janvier 2016, 85 personnes avaient été tuées dans ce même camp lors d'un raid mené par les militants islamistes. Dans l'est de la RDC, des combats intenses ont repris depuis dimanche entre les FARDC, l'armée nationale congolaise, et des miliciens Mai Mai pour le contrôle de Kabacha, localité située à 24 km au sud de Beni, dans la province du Nord Kivu. Il y a environ une semaine, plus de 900 détenus s'étaient évadés de la prison centrale de Beni après une attaque par des inconnus armés. Soudan, le chargé d'affaires américain dans le pays est en visite au Darfour pour évaluer la situation sécuritaire sur le terrain. Les détails avec Rosine Munezero.
Stephen Coetzee, qui doit passer 4 jours dans cette région troublée de l'Ouest soudanais, a rencontré hier les représentants de divers secteurs, les Nations Unies, la société civile et les chefs tribaux notamment. Les Nations Unies et l'Union africaine ont préconisé dans un récent rapport la réduction des effectifs de la MINUAD, la force internationale de 17 000 membres déployée depuis 10 ans au Darfour. Cette force coûte 1 milliard de dollars par an. L'AFP souligne aussi que cette visite au Darfour intervient à quelques semaines de la décision du président Donald Trump de lever ou non définitivement un embargo commercial américain en place depuis 2 décennies au Soudan. Le conflit au Darfour a fait quelques 300 000 morts et a entraîné le déplacement de 2,5 millions de personnes.
À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce lundi après-midi des consultations sur les différents frontaliers qui enveniment les relations entre Djibouti et l'Érythrée. Réunion à huis clos demandée par l'Éthiopie. Djibouti accuse l'Érythrée d'avoir profité du retrait du contingent du Qatar pour occuper une partie de territoire revendiqué par ces deux pays de la Corne de l'Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, à l'initiative d'un grand hôtel de Bujumbura, des conducteurs de taxi-vélo, des mécaniciens, des élèves de retour de l'école et d'autres citoyens ordinaires peuvent se rafraîchir gratuitement. Et ce, dans un pays qui manque cruellement d'eau potable, malgré ses nombreux cours d'eau. Cette initiative privée est qualifiée de louable par beaucoup de gens à Bujumbura. Les gobelets sont lavés avant et après utilisation, mais personne n'a le droit de s'approvisionner. L'eau est à boire sur place. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, s'est rendu sur les lieux.
Sur l'avenue de l'université, du côté du quartier cosmopolite de Buiza, au centre-ville de Bujumbura, une machine offre avec un robinet de l'eau fraîche aux passants pendant les heures de service. Et gratuitement, tout passant qui a soif peut venir se désaltérer. Ce monsieur, la cinquantaine, est le témoin quotidien des personnes jeunes et âgées qui jouissent du bienfait de la machine à eau. Il parle d'un acte purement humanitaire pour la personne qui a eu cette idée dans un pays où l'eau est devenue une denrée rare ces derniers temps.
Vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. N'importe qui, les pauvres, ils passent là-bas, ils se lavent les mains, ils boivent de l'eau avec des gobelets bien propres. Donc, c'est un bienfaiteur pratique. Il met sa bienfaisance en pratique. Il y a aussi des charges de téléphone gratuits là-bas. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire.
Ce jeune homme, élève d'une école secondaire du quartier mitoyen de Rehéro en face de Buiza, vient souvent boire de l'eau chez Gilbert Mbrouziza, le patron de l'hôtel qui a eu cette initiative bienheureuse. En plus de l'eau, cet élève charge normalement son téléphone et utilise les Wi-Fi mis à la disposition de la population gratuitement.
Moi d'abord, je remercie ceux qui ont pensé d'amener ce robinet gratuit. Il nous donne de l'eau potable alors qu'au Burundi, le problème de l'eau est très difficile et l'eau est rare. Je remercie ce monsieur et il nous donne de l'énergie pour charger nos téléphones gratuitement. Il y a du Wi-Fi là-bas, c'est une bonne idée.
Cet autre élève rencontré sur place remercie le bienfaiteur qui a posé ce geste.
Je veux dire qu'il a bien fait. Toutes les personnes n'ont pas les mêmes moyens. On ne demande pas de l'argent. C'est une bonne chose. Que Dieu le bénisse.
Une autre personne parle d'un geste de bon samaritain.
Aider les gens, aider la population, c'est une bonne chose. Il y a aussi un endroit pour charger des téléphones. C'est une bonne action. Ouais. C'est un samaritain. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de patrons ici au Burundi qui peuvent faire ces bonnes actions. Il y a le problème de l'eau ici. Voir quelqu'un qui fait cette action, boire de l'eau gratuitement, c'est vraiment impeccable.
Quand le propriétaire de l'hôtel m'a donné rendez-vous pour une interview, Gilbert Mbrouziza m'a demandé de ne pas faire l'interview car il ne veut pas se faire voir. Mais il m'a fait savoir que donner de l'eau fraîche pour des gens qui sont souvent fatigués comme les taxis vélos est un acte simple qui ne mérite pas d'être porté à la connaissance du public. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Royaume-Uni, la première ministre britannique Theresa May a promis aujourd'hui de combattre le terrorisme après l'attaque contre des fidèles musulmans près d'une mosquée dans le nord-est de Londres dans la nuit de dimanche à lundi. Notre détermination à la contrecarrer sera la même quel que soit le responsable, a affirmé Mme May lors d'un point de presse devant sa résidence privée à Downing Street dans la capitale. Toutes les victimes de l'attaque perpétrée à l'aide d'une camionnette contre des piétons à proximité de la mosquée sont musulmanes. Le conducteur de la camionnette a été arrêté pour tentative de meurtre. En France, le Premier ministre français Édouard Philippe devrait remettre ce lundi la démission de son gouvernement avant un remaniement technique. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement au lendemain des législatives ayant donné une majorité écrasante au nouveau président Emmanuel Macron. Le parti du chef de l'État, La République en Marche, avec son allié du MoDem, a obtenu dimanche une confortable majorité absolue à l'Assemblée nationale, 350 sièges sur 577, dont 308 pour la formation présidentielle, lors du second tour marqué par une abstention record. Chérubin Dorsil.
C'est une victoire sans appel pour le camp Macron. La République en marche et son allié du MoDem auront remporté bien plus que les 289 sièges requis pour avoir la majorité absolue. Le nouveau chef de l'État français, ancien ministre de l'économie, le François Hollande, qui a bénéficié de l'effondrement de la gauche traditionnelle et des fissures de la droite, avec l'affaire Fillon notamment, aura les coudées franches pour mettre en œuvre un ambitieux programme de réforme et renforcer sa position au niveau européen. Point sombre au tableau, le taux très élevé d'abstention. On parle de plus de 56% d'électeurs qui ont boudé ce scrutin, ce que le chef de file de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, qualifie de grève générale civique. Par ces élections, le peuple français, en tout cas la minorité qui est allée voter, a dit non au parti traditionnel et misé sur le changement prôné par le jeune président de 39 ans. La droite républicaine et le centre ont eu au moins 128 sièges. Grande déception pour les socialistes, pas plus de 50 députés. Mauvais résultat également pour le Front National, dont la présidente Marine Le Pen entre cependant pour la première fois à l'Assemblée. Le parti aura vraisemblablement moins de 10 députés. En résumé, la nouvelle donne en France ce lundi, c'est l'entrée en scène de beaucoup d'élus dépourvus d'expérience dans la chose publique et la mise au rancard de politiciens de carrière emportés par l'avalanche de La République en Marche.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.